Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un pas de géant. C'est Joe Biden qui le dit. Le président américain a fait passer sur le fil son plan de relance historique. 1900 milliards de dollars qui vont déferler sur l'économie. Les républicains sont encore sidérés devant de tels montants, alors que chaque citoyen américain recevra sous peu un chèque de 1 400 $. Un pari pour relancer la consommation, la croissance, mais un pari qui inquiète déjà les spécialistes. Surchauffe de l'économie, inflation, hausse des taux, les conséquences pourraient impacter directement les économies européennes. C'est l'acte fondateur, en tout cas, de la politique économique de Joe Biden, qui a succédé à Donald Trump il y a 3 mois. Alors, ce plan de relance est-il vraiment surdimensionné? Faut-il craindre le retour de l'inflation? Que retenir des premiers pas du discret Biden à la Maison-Blanche? 1900 milliards, le pari risqué de Biden, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Philippe de Sertine, vous dirigez l'Institut de haute finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Pierre Aski, vous êtes chroniqueur géopolitique à France Inter et à l'Obs, vous êtes par ailleurs président de Reporters sans frontières. Avec nous ce soir, Nicole Bacharan, vous êtes historienne, politologue, spécialiste des États-Unis. Citons votre livre « Le monde selon Trump » aux éditions Talendier. Enfin, Marie-Cécile Nab, vous êtes directrice de recherche à l'Institut de Relations Internationales. Vous êtes spécialiste des États-Unis. Votre dernier livre intitulé « La démocratie féministe » est édité aux éditions Kalman-Lévy. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. On va commencer avec un chiffre fou, Philippe de Sertine. 1900 milliards de dollars. Il n'a pas fait dans le détail, Joe Biden.
Non, il n'a pas fait dans le détail. Je crois que vraiment, pour bien avoir des idées, l'économie américaine, c'est 10 fois l'économie française, vous voyez, en termes de PIB. Donc nous, on a fait un plan de 100 milliards. Là, ça fait, si on divisait par 10, ça ferait 190, 1900. Donc on est quand même pratiquement au double du plan français. Mais attention, on a eu au mois de mars le plan, enfin de l'année dernière, le plan Trump, 2200 milliards, et au mois de décembre, 900 milliards. C'est-à-dire qu'on est sur une base à 5 000 milliards, 5 trillions. Hein, donc, comme on dit maintenant, on utilise des trillions, ça va plus vite. Donc, effectivement, c'est quand même un plan extrêmement important, extrêmement conséquent, même si on ne doit pas complètement comparer au plan européen, parce qu'il y a plein, on va dire, de sommes qui sont attribuées à des éléments que nous, on ne compte pas nécessairement dans un plan de relance.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, par exemple, ce qui va être des investissements médicaux, ce qui va être tout ce qui est autour, par exemple, du vaccin, etc., etc. Donc, ce sont des montants qui ne sont pas négligeable, ça se compte en dizaines de milliards de dollars. En Europe, ce n'était pas considéré comme de la relance.
Du point de vue des économistes, lorsqu'il a annoncé la nature de ce plan, alors c'était une promesse de campagne, ça a été une surprise. On a l'impression qu'il n'y a plus de limites pour relancer l'activité économique aux États-Unis, quand on est face à des sommes comme celle-ci. Et on va le voir un peu plus tard dans l'émission, mais les républicains s'inquiétaient. Mitch McConnell a dit « Jamais auparavant le Congrès n'avait dépensé autant d'argent de façon aussi incohérente ou après un processus si peu rigoureux ». On voit bien qu'y compris certains Américains eux-mêmes s'inquiètent.
Oui, alors... Bon, Donald Trump, à la fin de son mandat, était parti quand même sur un plan probablement autour de 1500 milliards. C'est-à-dire qu'on n'était pas si loin. Ce qui est certain, c'est que nous sommes dans une situation totalement inédite, un effondrement de la croissance mondiale. C'est un événement mondial que nous vivons avec la pandémie et avec, évidemment, tout ce qui a été le confinement de l'économie. Donc, il faut là un stimulus énorme, quelque chose qu'on n'a jamais vu, mais avec, évidemment, les incertitudes qui sont attachées à cet événement incommensurable. On pourrait vraiment là utiliser le terme, et cet événement qui nous plonge dans l'inconnu.
C'est historique, Nicole Bacharan, un plan de relance de cette nature-là dans l'histoire américaine.
Ah oui, c'est totalement historique. Le dernier très grand plan de relance avant celui de Donald Trump que citait Philippe, c'était celui de Barack Obama au moment de la très grave crise financière de 2007, 2008, 2009, et son plan de relance début 2009, il tournait autour de 800 milliards. Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans les mêmes dimensions. Et pour ce qui est de la dimension historique, je pense qu'il faut vraiment revenir au New Deal de Franklin Roosevelt en 1932-33, c'est-à-dire pour essayer de sortir, et ça a été fort difficile, de la terrible dépression de 1929. Et tout ce que j'ai pu entendre, capter du camp démocrate, au sens large même, au sujet de ce plan de relance, c'est qu'il y a beaucoup plus de risques à faire trop peu que pas assez. Alors évidemment, Bon, on sait que les Américains ont l'habitude de faire marcher la planche à billets, que les équilibres budgétaires les empêchent rarement de dormir. Mais là, vraiment, et c'est vrai, je rejoins tout à fait ce que disait Philippe de Sertine, on est dans l'inconnu face à une crise d'une nature très particulière et les démocrates pensent qu'il faut y aller à fond, qu'une demi-mesure ne peut pas suffire.
Et d'ailleurs, il paraît qu'en lisant cette émission, j'ai vu certains commentaires peu amènes sur ce qu'avait fait Barack Obama après la crise de 2008. Et Biden, évidemment, qui était dans l'équipe Obama, disait qu'il ne faut pas faire ce qu'il avait fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'avait pas fait suffisamment pour relancer la machine.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans ce plan Biden, il y a des choses fort différentes. Donc, d'abord, la somme est beaucoup plus importante. L'aide directe aux familles. Et il y a des projets aussi pour l'aide aux familles, pour les enfants pauvres, qui est un problème énorme aux États-Unis. Tout cela est beaucoup plus important dans le plan actuel. Et il y a aussi ce qu'on ne trouve pas dans le plan actuel et qui était dans le plan de Barack Obama, c'est-à-dire les secours très généreux, peut-être nécessaires d'ailleurs, portés aux banques, aux grandes entreprises. Là, elles ne font pas partie de ce plan. C'est un plan pour faire face à la pandémie, que d'ailleurs Joe Biden appelle le plan de sauvetage de l'Amérique. Et c'est surtout les familles et les petites entreprises qui vont en bénéficier.
C'est ça, hein, Pierre Aski. Les familles américaines vont recevoir le chèque Biden.
Et c'est ça qui est d'ailleurs la dimension politique la plus forte. C'est que dans quelques jours, les gens vont recevoir un chèque. Et pour la première fois, parce que c'est quand même justement, nous on est surpris parfois par l'Amérique, par le côté dur de la société américaine. Mais il y a dans ce plan des allocations familiales, c'est-à-dire une aide directe pour chaque enfant indexée aux revenus de la famille. Et ça n'existait pas jusqu'à présent, c'est quelque chose. Alors, nous, ça nous semble banal parce qu'on a grandi avec, on vit avec. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les plans ne sont pas comparables parce qu'il y a des choses que l'extension des allocations chômage, par exemple, qui arrivait à se terminer dans quelques jours, vont être étendues jusqu'en septembre, ces allocations familiales. Donc, des choses qui sont une petite révolution mentale que les démocrates poussent depuis des années et des années. On connaît les batailles sur la santé, sur le social. Et là, aujourd'hui, toutes les planètes sont alignées. Biden a les moyens de le faire. Il ne faut quand même pas oublier
qu'il a les moyens, c'est la question.
Il fallait quand même qu'il gagne la Géorgie. Quand même. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé il y a à peine trois mois. C'est-à-dire qu'il y a trois mois, le Sénat était entre les mains des Républicains et Biden n'aurait jamais pu faire passer son plan tel qu'il passe aujourd'hui. Il passe parce qu'il a fait le plein des votes démocrates et il avait besoin juste de la majorité. Il a employé une procédure un peu particulière.
Oui, ça s'est joué quand même très court.
Ah ben, il suffisait qu'il y ait une ou deux défections du côté démocrate, ce qui n'était pas du tout impossible. Hein. C'est quand même pas un parti aussi discipliné que les partis qu'on peut connaître. Et ça passait pas. Donc il y a quand même une conjonction d'éléments politiques qui font qu'aujourd'hui, ça se passe et c'est miraculeux, avec tous les dangers des miracles.
Et on y viendra un tout petit peu plus tard sur les dangers, notamment l'inquiétude qu'on a vue sur les marchés financiers de manière très spectaculaire la semaine dernière. Mais quand même un mot sur ce chèque, parce qu'il y a des gens qui vous regardent là ce soir et qui se disent c'est magnifique quand même recevoir un chèque de 1 400 euros avec comme simple mission de le dépenser. Oui. C'est sous condition de ressources ou c'est pour tous les Américains?
Alors, il y a un plafond, effectivement, et c'est dégressif pour les plus gros revenus, mais l'immense majorité des Américains vont recevoir ce premier chèque, donc de 1 400, plus ces allocations familiales, plus des indemnités de chômage pour ceux qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie et qui ne touchaient plus rien, théoriquement, à partir du 31 mars. Donc, on est dans des situations assez dramatiques. Le New York Times, ce matin, racontait des histoires comme ça de ce que vont changer ces allocations familiales pour des familles monoparentales qui se retrouvent plongées dans la pauvreté du jour au lendemain pendant la pandémie. Donc il y a un côté bouée de sauvetage à une société très durement impactée.
C'est relance de l'économie, mais à très court terme. Marie-Cécile Na, vous êtes d'accord avec ça? C'est un plan d'urgence pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la pandémie. Juste pour boucler la question, ce chiffre que vous avez peut-être vu, 37% des Américains ne peuvent plus aujourd'hui faire face à une dépense imprévue selon la Fed, ça montre bien qu'il y a une partie de l'Amérique qui avait besoin de ce plan de relance, mais surtout d'un plan d'urgence.
Oui, le pari, il est double. Le pari de Biden, il est double. C'est qu'en injectant beaucoup de liquidités dans l'économie américaine, eh bien, elle va repartir. Elle va repartir notamment, et ça, c'est une tradition américaine, par la consommation. Et le deuxième point du pari de Biden, c'est qu'en luttant contre la pauvreté, on peut faire repartir la machine. Et notamment, le but qui est de réduire de 50% la pauvreté infantile s'adresse aussi, ce but concerne aussi certaines catégories de la population qui sont particulièrement fragiles et qui ont été particulièrement affectées par les conséquences économiques de la Covid, notamment les femmes. Les femmes, il y a 2,5 millions de femmes qui sont sorties du marché du travail contre 1,8 million d'hommes. Pourquoi ? Parce que c'est des emplois plus flexibles, des emplois plus précaires, parce que les gardes d'enfants sont supprimées, parce qu'elles ne peuvent plus faire face à un certain nombre de contraintes, la fermeture des écoles, etc. etc. Donc elles sont encore plus pénalisées. Et en ciblant les populations les plus fragiles, eh bien, finalement, on aide à faire repartir de grandes catégories de la population qui apportent leur pierre à l'économie en général et qui, là, sont complètement paralysées. Et par ailleurs, il y a un point important dans le plan de relance de Biden, c'est 350 milliards qui sont accordés aux collectivités locales, ce que nous, on appelle les collectivités locales, donc notamment les États fédérés. Et d'ailleurs, dans les États fédérés conservateurs, on est beaucoup plus d'accord avec ce plan que du côté des sénateurs conservateurs pour ajuster sur le plan très local, la reprise économique, dont rouvrir les entreprises dans des bonnes conditions sanitaires, rouvrir les écoles dans des bonnes conditions sanitaires, pour que ce soit vraiment ajusté aux besoins de la population en fonction des réalités locales. Donc ça, c'est un enjeu de subsidiarité.
Marie-Cécile Nave, on est d'accord qu'il n'y a pas d'aide dans ce plan de relance directe aux entreprises ?
Non, très peu, ou en tout cas pour les PME. On cible plutôt les PME pour, en particulier, leur permettre de reprendre leur activité dans de bonnes conditions sanitaires pour leurs employés. C'est assez différent, c'est même très différent, ça a été dit, du plan de relance de 2008, où là, vraiment, il y avait des aides massives en faire des très grosses entreprises, et notamment des établissements financiers.
On voit bien, vous avez raison de le souligner, Marie-Cécile, l'objectif n'est pas exactement le même, hein, sur les plans de relance version européenne et ce qui se passe en ce moment aux États-Unis.
Oui, alors, on a 50 milliards sur les PME, donc c'est pas... Ouais. Mais vous avez aussi quand même un peu... Alors oui, mais toujours, vous voyez, vous divisez par 10,
oui, hein,
ça
sûr,
fait 5
c'est
milliards,
vous d'ici.
Ça fait pas beaucoup. Hein. Vous avez aussi une quinzaine de milliards un peu plus sur l'aéronautique. Hein, donc aussi, on a aussi une aide, par exemple, aux bars et aux restaurants, hein, dans les PME, exactement comme on peut avoir quand même en France. Hein, c'est la même chose. Hein. Mais c'est vrai que non, c'est d'abord un plan global de relance. On a aussi, il a évoqué l'enfance, mais vous avez 125 milliards sur l'école. Hein, vous avez 45 milliards sur les universités. Vous voyez, donc ça m'intéresse. Donc voilà, vous avez des choses de ce genre quand même, donc qui sont des éléments, on va dire, beaucoup plus larges qu'une relance immédiate.
Alors tout s'est joué à une seule voix au Sénat, un vote sur le fil pour le plan de relance le plus vaste de l'histoire américaine. On l'a dit, un plan à 1900 milliards avec pour chaque Américain la garantie de recevoir un chèque de 1 400 $, un déferlement de cash avec l'espoir de relancer la consommation, la croissance, mais avec un risque toutefois, enclencher une surchauffe de l'économie. Walid Berissoul et Nicolas Baudry-Dasson.
Il avait promis de parler un peu moins souvent que son prédécesseur, mais d'agir fort et d'agir vite. Bientôt 2 mois après son investiture, le nouveau président américain annonce avoir obtenu un plan de relance historique pour les États-Unis.
Quand nous avons pris nos fonctions il y a 45 jours, j'ai promis aux Américains que l'aide était en chemin. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons effectué un pas de géant pour réaliser cette promesse.
Une victoire obtenue au forceps. Il a fallu plus de 24 heures de tractation au Sénat américain pour y parvenir.
50 voix pour, 49 voix contre. Le projet de loi est adopté.
Une seule voix, une seule, a permis de débloquer la somme astronomique de 1900 milliards de dollars pour répondre à cette crise inédite. Un électrochoc adopté dans une atmosphère très éloignée de l'unité nationale.
Au lieu d'essayer de nous rassembler, il passe des coups de fil pour s'assurer que quelques démocrates ne travailleront pas avec les républicains.
Ce plan de relance de 1900 milliards de dollars est du même montant que celui que nous avions adopté en avril dernier. On était alors en pleine pandémie. Le pays n'avait pas du tout le même visage il y a un an. Il s'agit d'une réponse totalement disproportionnée par rapport à la situation actuelle. Depuis le début de la pandémie, il y a eu un, puis deux, puis trois plans de soutien, pour un total de 4 800 milliards de dollars. Pourtant, ces derniers temps, l'économie américaine montrait quelques signes d'amélioration. Le chômage a reculé au mois de février, mais pas de quoi faire dévier la nouvelle administration.
Sans véritable plan de soutien, ces progrès vont ralentir. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire un pas en avant et deux pas en arrière. Les gens ont besoin d'aide maintenant, dans moins de deux semaines. 11 millions de personnes vont perdre leurs droits aux allocations chômage. Au moins 7 millions d'enfants n'ont pas de quoi se nourrir régulièrement. 13 millions d'Américains sont en retard sur leur loyer.
Mais le plan de soutien de Joe Biden touche un public bien plus large que ceux qui bénéficient de l'aide alimentaire. D'ici à la fin du mois, le Trésor va envoyer des chèques de 1 400 $ directement dans la poche de près de 9 Américains sur 10. Les économistes appellent ça « hélicoptère money », l'hélicoptère monétaire. Mais à force de faire pleuvoir les billets verts, attention à la surchauffe. L'avertissement est venu de Lawrence Summers, un ancien conseiller économique de Bill Clinton et de Barack Obama.
Il vaut mieux avoir un plan de relance que pas de plan du tout. Mais nous allons au-devant d'énormes risques. Nous allons entrer dans une période d'inflation. Quand vous avez une économie qui a perdu 3 points de PIB, mais qui est soutenue à hauteur de 9 points de produit intérieur brut, il n'est pas difficile de voir où est le problème.
Le spectre de l'inflation a provoqué une poussée de fièvre à Wall Street il y a une dizaine de jours. Les taux d'intérêt ont brusquement grimpé avant de redescendre. Une première alerte qui pourrait avoir des répercussions notamment sur les économies européennes, elles aussi en quête de relance.
Il faudra être vigilant sur le risque d'inflation et donc de surchauffe sur les taux d'intérêt. Il y a eu une alerte, mais vous avez vu que les marchés ont corrigé très rapidement, donc je n'ai pas d'inquiétude. Mais la première conséquence, c'est que l'activité économique va redémarrer vite aux États-Unis, c'est-à-dire chez un des grands clients de l'Union européenne et un des grands clients de la France. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. La zone euro peut en profiter économiquement.
Cet enthousiasme sera-t-il partagé par celle qui donne le la de la reprise dans la zone euro ? La directrice de la Banque centrale européenne doit s'exprimer jeudi. Une prise de parole très attendue face à ce risque de remontée des taux.
Il y a une vraie crainte, Philippe de Sertine, d'une surchauffe inflationniste, comme le dit Olivier Blanchard, l'ancien chef économiste du FMI.
Oui, alors évidemment, la surchauffe inflationniste, c'est-à-dire comme vous injectez beaucoup de monnaie et qu'il n'y a pas de richesse en face, bah, ça veut dire qu'en fait, la monnaie, elle s'ajuste, elle perd sa valeur. Vous voyez, on comprend très bien l'ajustement qui peut avoir lieu. Donc il faut qu'il y ait la croissance en face pour qu'on n'ait pas ce risque-là. Mais s'il y a la croissance, on peut se retrouver aussi, vous voyez, c'est là où c'est vraiment sur le fil du rasoir, on peut se retrouver en pénurie. Vous voyez, en ce moment-là, à l'heure où nous parlons, nous avons une pénurie mondiale sur les semi-conducteurs, sur tout ce qui est l'électronique, les éléments de l'électronique absolument capitaux pour la croissance d'aujourd'hui. C'est-à-dire, vous voyez, tous les ordinateurs, les téléphones, etc., on est en train de dire, zut, on n'arrive plus, on risque de ne pas pouvoir satisfaire la demande. Pour la Chine, c'est un énorme problème. Ça va être même probablement au cœur du 14e plan chinois qui va être présenté en disant on est trop dépendant du reste du monde et là on est en ce moment dans un goulot d'étranglement. On a cette situation, vous voyez, où là, le redémarrage très très fort fait quoi ? C'est qu'à ce moment-là, bah, les semi-conducteurs, comme personne n'en a, comme les puces, on n'en a pas assez, et bah, les prix montent. Et quand les prix montent sur le semi-conducteur, tout monte. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'énergie, on dit aujourd'hui, c'est le pétrole d'aujourd'hui. Quoi. Le pétrole, d'ailleurs, entre parenthèses, qui monte aussi. Hein, il a passé les 70 dollars le baril, alors qu'on était tombé pendant la pandémie. Au moment où on dit on ne consomme plus, on s'était effondré, on avait eu le prix du pétrole qui s'effondrait littéralement. Là, hop, ça repart. Donc tout ça, ça
pousse
les prix. Ça veut dire qu'il
y a d'ores et déjà des signaux qui montrent qu'on est sur une tendance inflationniste. Est-ce que vous mettez dans la même catégorie ce qu'on s'est passé sur les marchés la semaine dernière ? Alors peut-être que c'est passé un peu inaperçu au milieu de la pandémie mondiale, mais malgré tout, il y a eu ils ont eu des sueurs froides. Hein.
Oui, je peux vous dire qu'en finance, c'est pas passé inaperçu du tout.
D'accord.
C'est-à-dire
alors, racontez-nous.
La semaine dernière, en fin de semaine, vendredi, donc on a eu effectivement une montée sur les taux longs américains, c'est-à-dire les taux à long terme, notamment auxquels se finance l'État américain. Pourquoi ? Parce que tous ces signes inflationnistes qui arrivent de redémarrage de l'activité, donc qui sont entre guillemets des bons signes. Vous voyez, ça veut dire que ça. Oui, vous voyez, mais là, c'est ce qu'on disait dans le reportage, surchauffe, quoi. C'est-à-dire, attention, le moteur, il tourne super bien, mais s'il surchauffe, il peut exploser quand même. Hein, donc il faut vraiment faire attention. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que, évidemment, les financiers qui prêtent, ils disent, oui, mais s'il y a de l'inflation, ça veut dire que l'argent se dévalue, donc il faut que je sois rémunéré plus, non pas pour gagner plus, mais juste pour gagner la même chose avec l'argent qui perd la valeur. Et donc là, on a vu les taux longs qui ont commencé à monter, et là, évidemment, ça affole tout le monde, surtout ceux qui sont très endettés.
C'est-à-dire nous.
Oui, quand on parle français, on se sent tout de suite concerné. On a vu dans le reportage le ministre de l'économie ce matin, qui évidemment, lui aussi, surveille ça avec beaucoup d'attention en disant il ne faut pas qu'il y ait de la déflation, que les prix baissent. Mais là, maintenant, on n'est plus dans ce problème-là. On est dans l'inflation et l'inflation, ça pousse les taux d'intérêt.
Je reste avec vous pour cette question, Philippe de Sertine, qui nous est posée par Michel, qui habite dans les Yvelines. L'Union européenne profitera-t-elle de la relance économique aux États-Unis? Parce qu'avant le risque de surchauffe, il y a quand même peut-être une bonne nouvelle, c'est que tout cet argent mis sur l'économie, qui va déferler sur l'économie américaine, peut aussi créer un souffle chez nous. Ce sont des produits, parfois des produits européens, qui vont acheter les Américains.
Sur l'ensemble de l'économie mondiale, depuis le plan, l'annonce du plan, on dit qu'on va augmenter la croissance mondiale d'1%. Ce qui est gigantesque, quoi. C'est-à-dire le monde entier va bénéficier de l'effet d'accélérateur de la locomotive que sont les États-Unis. L'Europe va en profiter aussi, donc on estime que ce sera évidemment beaucoup moins de 1%, aux alentours de 0,25, peut-être 0,30, mais on est, vous voyez quand même, c'est un peu plus quand même, hein, c'est quand même sensible, mais évidemment on aura un impact beaucoup moins fort que peuvent l'avoir d'autres, en particulier l'Asie.
Juste le risque de surchauffe, quand est-ce qu'on est fixé?
Ah là, on n'est pas fixé tout de suite, hein. C'est-à-dire qu'on va surveiller tout ça. Madame Lagarde va parler, mais de toute façon, on va regarder au fur et à mesure que le redémarrage de l'économie... Je crois peut-être quand même, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent, qui sont dans la morosité du virus, qui regardent tous les jours combien il y a de contaminés, etc. Et bien sûr, quand on le vit, on comprend ça. Et en même temps, en matière économique, on est déjà... dans le coup
dans
d'après.
La relance et dans le
redémarrage. Oui, c'est-à-dire, vous voyez, on va avoir plus de 5% de croissance en France. C'est un truc... énorme, gigantesque. Alors, c'est une super nouvelle, mais c'est aussi une super pression, quoi. C'est-à-dire que vraiment, on va voir, les gens vont voir les carnets de commandes qui vont déborder d'un seul coup, d'un seul. Et vous pouvez suivre, ça va, vous ne pouvez pas suivre, notamment si vous avez licencié, notamment si vous êtes désinvesti, ben, c'est vous les victimes.
Nicole Bacharan, ça a suscité un débat, l'ampleur de ce plan de relance aux États-Unis. Je citais certains économistes, mais dans la classe politique et au sein même du camp Biden, il n'y a pas eu de débat sur les risques éventuels.
Le débat a eu lieu, il a même été fort difficile. Hein. Dans le reportage, on a cité ces très longues négociations au Sénat, qui en fait ont été des négociations entre démocrates, parce que immédiatement les républicains ont refusé le plan. On a vu Mitch McConnell, le patron des Républicains, dire que c'était plus le moment, que c'était démesuré, que c'était irresponsable, en quelque sorte. Et tout d'un coup, les Républicains, qui sont eux-mêmes très, très occupés à savoir lesquels d'entre eux sont pour et contre Trump ou contre Trump, tout d'un coup, ils reviennent à des désirs d'orthodoxie budgétaire. Mais dans le camp démocrate, en fait, au Sénat, le débat a été entre ceux qui soutenaient totalement Biden, dont l'aile gauche sur ce sujet-là, je pense à Bernie Sanders, face à un sénateur, Joe Manchin, qui est de Virginie occidentale, qui est le plus conservateur des démocrates, qui vient d'un État où l'électorat est généralement républicain, donc il est très prudent, et c'est lui qui a vraiment exigé que certaines mesures, comme par exemple le doublement du salaire minimum horaire, soient abandonnées. Et là, on a vu quand même, moi je trouve, le talent bien pratiqué depuis si longtemps de Joe Biden pour la négociation, c'est-à-dire qu'il accepte de ne pas tout gagner. Ok, là ça passe pas, je recule, et on reste axé sur d'autres choses. Mais c'est vrai que le débat est fort, mais que le besoin de soulagement est si largement partagé dans le pays que pour l'instant, en tout cas, le soutien au plan est d'ailleurs nettement plus fort que le soutien à Biden sur le plan personnel.
Y compris auprès des Américains, les Américains eux-mêmes soutiennent cette démarche-là. Tout ce qu'on vient d'évoquer sur les risques de surchauffe, ça ne pèse pas face à un chèque de 1400
dollars. Oui, exactement. Les sondages montrent un soutien majoritaire, y compris dans les États républicains. Donc, évidemment, vous attendez ce hélicoptère money avec impatience quand vous êtes dans l'embarras. Et là-dessus... Il y a vraiment un décalage entre cet état-major politique républicain qui est dans ces querelles dans la stratosphère et la vie réelle des gens qui, eux, attendent cet argent avec impatience.
Marie-Cécile Nabb, sur le débat autour de ce plan de relance, avec le risque que peut comporter un plan de relance aussi démesuré.
Oui, hein, c'est la première grande réforme d'ordre législatif hein, que lance Biden. Donc, c'est aussi un peu un test pour chaque parti de voir quel est le rapport de force. Alors, on voit que le rapport de force républicain-démocrate, il est grand, ce qui ne va pas dans le sens de l'espoir de Biden d'aller vers des réformes bipartisanes, parce que c'est loin d'être la loi qui va être qui va occasionner le plus de clivages. Hein. Il a de grands projets en matière d'immigration, de climat,
oui, on va en parler,
d'emploi, etc. Et puis, dans le camp démocrate, ça a été dit, mais c'est vrai que c'est un moyen de tester le rapport de force, et notamment les sénateurs démocrates au Sénat, qui sont beaucoup plus centristes que les démocrates à la Chambre. Évidemment, il y a tout un tas de sujets qui vont arriver sur l'agenda et finalement, Biden, il a une fenêtre de tir assez réduite en temps.
Ce qu'on découvre, pardonnez-moi, je vous coupe, Marie-Cécile Nabb, ce qu'on découvre, c'est que Joe Biden est audacieux.
Oui, il est audacieux, mais ça fait partie, bien sûr, ce grand plan de relance et les mesures finalement très à gauche hein, qui sont incluses dedans, ça fait partie des promesses. Il faut se rappeler qu'il gagne aussi grâce à un rassemblement très important de l'électorat démocrate, y compris l'aile gauche qui a voté pour lui. Et donc ça fait partie des promesses et c'est sans doute un sujet qui est aujourd'hui le plus consensuel. Et dans les prochaines thématiques qui sont sur son agenda, les négociations vont être sans doute plus difficiles, ça va être plus difficile de les faire aboutir.
Et on y reviendra sur ce qui est à venir, voilà. Parce qu'effectivement, nous allons revenir sur les trois premiers mois de Joe Biden. Deux questions économiques avec vous, Philippe de Sertine. Un, est-ce qu'il a parlé du financement? Est-ce que c'est un sujet, parce que ce n'est plus un sujet chez nous, mais est-ce que c'est un sujet aux États-Unis? Et quand on relance la consommation aux États-Unis, on relance aussi les importations de produits chinois?
Oui, absolument. Les deux points sont vrais. D'ailleurs, ça communique de la croissance potentiellement à la Chine aussi, hein, le plan de relance. Eh ben oui, évidemment.
Ce n'est pas le but, du coup.
Non, ce n'est pas le but. Alors donc, il y aura à nouveau les questions qui peuvent se poser sur le problème, justement, de contingentement des produits chinois du point de vue des importations américaines. Ce qui est vrai, alors la question que vous évoquez sur le problème du financement, c'est un vrai souci quand même. Hein, c'est-à-dire la dette américaine et la dette publique américaine devient un problème. Mais là, c'est vraiment le vieux mot d'un secrétaire d'État au Trésor des années 70 qui disait « Le dollar est notre monnaie et votre problème », en parlant au reste du monde. Et ça, c'est l'énorme avantage américain, c'est-à-dire qu'on émet du dollar et si vous n'êtes pas content parce que le dollar monte trop ou descend trop, eh bien, c'est à vous de compenser, c'est-à-dire de racheter du dollar ou de traduire votre production en dollars. Donc là, les Américains ont toujours cette utilisation de leur plus grand porte-avions qu'est le dollar, la monnaie centrale, pivot du monde, au cœur. On a bien vu d'ailleurs, pendant la pandémie, les gens, quand ils ont peur, en fait, ils finissent par acheter du dollar. Ils disent, si tout s'effondre, j'achète de l'or, mais l'or, il n'y en a pas beaucoup. Mais au moins, j'achète du dollar. Donc, il y a vraiment le dollar comme monnaie de réserve mondiale encore aujourd'hui qui est la solution pour les États-Unis pour se financer. Mais on sent bien que ce processus-là, d'abord, évidemment, il déplaît souverainement aux Chinois, le terme convient, à mon avis, et donc même à beaucoup d'autres pays, voire même les Européens, en disant, mais quand même, là, on va peut-être trop loin, répétons-le, quand on est en train de comparer le plan de relance énorme européen à 700 milliards et le plan américain, alors que pourtant, là, on serait dans des choses qui pourraient se rapprocher, on est absolument, on va dire, dans deux dimensions. C'est-à-dire, un, qui n'hésite pas à faire marcher la planche à billets, et les
sans
autres...
Sans risque, là, pour le coup
Sans risque, si, c'est-à-dire, mais c'est un risque pour l'économie mondiale, on va dire.
Mais c'est un petit sujet, quand même.
C'est un petit sujet, mais pour le moment, ce n'est pas celui de Biden, et sûrement pas celui de son électorat. Donc, on est avec cette question sur les États-Unis, alors qu'ils disent bien, et ça a été, le monde entier va profiter de notre croissance. Mm-hmm. Mais évidemment, il peut profiter aussi du risque.
Nicole Bacharan, est-ce qu'il y a une inquiétude aux États-Unis sur la situation économique, sur la situation de l'emploi, ou est-ce que la crise sanitaire emporte tout? Les deux sont naturellement liés, mais...
Oui, c'est lié. C'est vrai que si on parle de la crise sanitaire, on sent qu'on ne va pas vers la fin, mais on va vraiment vers voilà, une diminution de l'angoisse. Il y a 60 millions d'Américains qui ont reçu au moins une dose de vaccin. Les chiffres d'hospitalisation, de contamination, de décès, toutes ces courbes-là baissent. Et Joe Biden a promis qu'à la fin du mois de mai, tous les Américains adultes qui le souhaitent, ou tous les habitants aux États-Unis, devrais-je dire, adultes qui le souhaitent, auront eu la possibilité d'être vaccinés d'ici fin mai. Mais l'inquiétude, elle est évidemment sur la santé, pouvoir se faire soigner. Le vaccin est gratuit, mais les soins ne le sont pas. Et les assurances médicales, souvent, elles sont liées au chômage. Vous avez 16 millions d'Américains qui ont perdu leur assurance médicale. Donc, le plan de Biden doit aussi faire face à cela. Et c'est vrai que ça n'est pas compté en Europe dans les plans de relance. Donc ça, c'est une partie, en tout cas, de ces dimensions folles des dépenses américaines. Mais c'est vrai que d'après tout ce que je peux comprendre, il n'y a pas une très grande inquiétude aux États-Unis sur l'avenir des équilibres budgétaires, l'inflation, etc. Parce que d'abord, beaucoup de gens ne suivent pas cela de très près, mais également parce qu'ils ont des urgences immédiates. L'école, les salaires, les loyers, acheter à manger, mettre de l'essence dans la voiture. Et rien ne prime sur ces inquiétudes-là.
Est-ce qu'il a fait des promesses chiffrées? Est-ce qu'il a donné des perspectives claires, Joe Biden? En gros, avec ce plan historique à 1 900 milliards, je vous garantis que... quelle est la promesse qu'il y a derrière ce plan de relance historique, Nicole Bacharan?
Il n'y a pas une promesse chiffrée.
D'accord.
Ce qu'il dit, c'est que le plan, il est à la hauteur de la crise et qu'il s'agit de sauver, au fond, les Américains de la misère, tout simplement. Comme je rappelais Franklin Roosevelt, c'était exactement les phrases qu'il aurait pu employer. Il s'agit de sauver les Américains de la misère. Et ensuite, on verra. On sait que ça va redémarrer, on sait qu'il y a de l'argent qui attend pour s'investir, on sait qu'on ne maîtrise pas où ça va partir vite et où ça va partir moins vite, mais il faut, dans l'immédiat, sortir les Américains de la misère. Mmh. Ceux qui y sont, en tout cas, ils sont nombreux.
Plan d'urgence, ce qu'on disait avant même de parler de plan de relance. Pierre Aski voulait dire un mot.
Ce qui est intéressant dans le parallèle avec le New Deal de Roosevelt, c'est que après ce plan de relance, il y a un autre plan qui est en préparation, qui est un plan de dépenses sur les infrastructures. Et ça fait... Alors, Trump l'avait promis, il ne l'a jamais fait. C'est un peu le serpent de mer de l'Amérique depuis des années. Mais on sait très bien qu'aux États-Unis, il y a des milliers de ponts qui sont au bord de l'effondrement. Les chemins de fer sont loin derrière les standards mondiaux, etc. etc. Et là, on est dans la relance par les grands travaux, par des grands travaux d'infrastructures. Et ça viendra après prendre le relais de ce plan dont la durée de vie, l'impact est prévu sur un an et demi maximum. Ouais. Dans un an, il y aura ce plan avec des investissements massifs.
Un plan, oui, vaste, 700 milliards, je crois, c'était ce qu'avait été dit pendant la campagne.
Oui, il y a des chiffres qui circulent, qui ne sont pas encore définitifs. Ouais. Mais en tout cas, on a quelque chose que l'Amérique n'a pas fait depuis longtemps. Et on voit bien, quand on voyage aux États-Unis, à quel point il y a un décalage dans les infrastructures.
Ce sera l'acte de très vite, Philippe de Sertina.
Ils ont
le deuxième reportage.
Deux pauvres milliards pour Amtrak, hein, pour la SNCF américaine, là, dans le plan, donc vraiment rien du tout. Vraiment, quand on parle, vous voyez, des années 30, ce qui est quand même incroyable, c'est Roosevelt, sur 8 ans, il lance un plan. À l'époque, ça fait 1 milliard de dollars, c'est-à-dire ça ferait aujourd'hui 150 milliards. Le grand New Deal, vous voyez,
ce
le truc mythique,
milliards.
C'est 150 milliards. Vous imaginez, là, on est d'aujourd'hui. Ouais. Donc, on est 1900, 5000 milliards, on a changé d'échelle complètement.
D'où peut-être le risque de surchauffe qu'on évoquait à l'instant. Allez, parlez peu et agir vite. Voilà comment on pourrait résumer les trois premiers mois au pouvoir de Joe Biden. Son obsession depuis qu'il s'est installé à la Maison-Blanche, se démarquer de son prédécesseur et prendre le contre-pied de ce qui a été fait sur la scène intérieure comme à l'international. Le risque, entretenir une comparaison avec celui qui promet déjà de le défier dans 4 ans, un certain Donald Trump. Emma, 20 ans, Benoît Thébault.
À ses détracteurs qui le disent vieux, presque ennuyeux, lui répond expérience, modération. Tout pour faire oublier son turbulent prédécesseur, jusque sur son compte Twitter, parfaitement sobre et policé. Joe Biden se voit comme l'anti-Trump, un politicien capable de compassion au chevet des États-Unis. Pour guérir une Amérique qui compte déjà 500 000 morts du Covid-19.
Je sais ce que ça fait quand vous tenez leurs mains. Leur regard quand ils glissent loin de vous. Le trou noir dans votre poitrine. Vous avez l'impression qu'il va vous engloutir. La culpabilité que l'on ressent d'avoir survécu. La colère.
Dès le début de son mandat, il fait de la lutte contre la pandémie sa priorité. Donald Trump s'était fait vacciner loin des caméras en janvier. Joe Biden, lui, préfère donner l'exemple. Résultat, 14 millions d'Américains ont déjà reçu leur première dose.
Mon plan commence par une campagne de vaccination sûre, agressive et efficace pour atteindre notre objectif de 100 millions de personnes vaccinées pendant les 100 premiers jours de mon mandat.
Son obsession, se démarquer de son prédécesseur. Le soir même de son investiture, il revient sur un nombre impressionnant de décrets pris par Donald Trump.
Et maintenant, cet autre engagement que j'avais pris, de rejoindre l'accord de Paris.
40 décrets en 10 jours, un record. Il réintègre par exemple l'Organisation mondiale de la santé. Le signe aussi de sa volonté d'un retour au multilatéralisme.
L'Amérique est de retour. L'Alliance transatlantique est de retour et nous ne regarderons pas en arrière. Nous allons regarder en avant avec eux.
Sur le plan de la diplomatie, Joe Biden entend revenir dans l'accord sur le nucléaire iranien, celui que Donald Trump appelait le pire accord jamais négocié.
Nous avons besoin de transparence, de communication, pour réduire le risque d'erreurs stratégiques. C'est pourquoi nous sommes prêts à renégocier l'accord sur le nucléaire iranien, car il faut contrer les activités qui déstabilisent le Moyen-Orient.
Joe Biden tend la main à l'Iran, mais déçoit sur l'Arabie saoudite. Pendant sa campagne, il avait promis de sanctionner les assassins du journaliste Jamal Khashoggi. Il a bien déclassifié des documents de la CIA, révélant l'implication du prince héritier d'Arabie saoudite dans le crime. Mais pour l'instant, rien de plus.
Aucune mesure punitive ne sera prise directement à l'encontre de Mohamed Ben Salman. Et ça crée des frustrations chez les membres du Congrès qui voudraient que des sanctions soient prises.
Et en se positionnant comme un anti-Trump, Joe Biden prend le risque de continuer à le faire exister dans le débat public. Pendant son dernier meeting en Floride la semaine dernière, Donald Trump nourrissait déjà les rumeurs autour de la prochaine élection présidentielle.
Les démocrates sont pratiquement assurés de perdre les élections de mi-mandat et de perdre la Maison-Blanche dans 4 ans. Et qui sait ? Qui sait ? Je pourrais même décider de les battre pour une troisième fois.
Mais pendant ses premières semaines de mandat, Joe Biden a principalement légiféré par décret. Des textes qui pourront être contrés par son successeur aussi facilement qu'il l'a fait avec ceux de Trump. Il lui faudra donc compter sur sa fragile majorité au Congrès pour pérenniser ses mesures.
Un mot quand même, Pieraski, sur les images de Donald Trump qu'on vient de voir. Le match est déjà lancé.
Il est étonnant, il faut bien le dire. Hein, après tout ce qu'on a vécu avec lui ces derniers mois, de le voir aussi arrogant d'une certaine manière, je pourrais le battre. C'est très étonnant. C'est un showman, c'est un acteur. Je ne suis pas sûr que... on en reparlera d'abord dans 2 ans avec les midterms, et puis ensuite dans 4 ans.
Il garde encore une capacité de nuisance au moment où justement Joe Biden pose les premières pierres de son édifice politique et économique.
Oui, parce qu'il a une partie de l'électorat démocrate qu'il faudra réévaluer de temps en temps. On ne sait pas exactement quelle proportion
de l'électorat républicain,
qui le suit aveuglément et qui reste convaincu que les élections ont été truquées, que Joe Biden est illégitime, etc. Est-ce qu'il est en mesure de garder cette loyauté? C'est un peu la grande inconnue. Et on le verra d'ailleurs avec l'attitude des élus républicains eux-mêmes. Combien d'entre eux resteront fidèles à Donald Trump? Que va devenir le Parti républicain lui-même? Parce que c'est l'âme du Parti républicain qui est en cause et qui est en jeu aujourd'hui.
D'ailleurs, il voulait régler ses comptes, hein, Marie-Cécile Nave, avec les républicains Donald Trump lors de sa prise de parole en Floride.
Oui, il a déjà annoncé qu'il allait tout faire pour qu'il y ait des primaires dans certaines élections pour les élections de mi-mandat pour des républicains qui ne lui seraient pas complètement loyaux, voire qui ont voté l'impeachment, le deuxième impeachment. Il y a très peu de républicains qui ont voté l'impeachment, à la Chambre en particulier. Il a déjà dit qu'il allait tout faire pour les mettre en difficulté aux prochaines élections de mi-mandat qui arrivent dans un peu moins de 2 ans. Hein. C'est novembre 2022. Donc, intégralité de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat qui sont renouvelés. Et ça, ce sera le grand test, je crois, pour voir si Trump reste toujours la figure centrale au sein du Parti républicain ou bien est-ce qu'il cherche à s'en démarquer pour construire un autre agenda, un autre projet de société pour l'Amérique. Mais il faut bien être conscient qu'aujourd'hui, Trump a la main sur le parti, et c'est en particulier parce que c'est un réservoir de voix de 74 millions. Trump fait 12 millions de voix de plus le 3 novembre dernier qu'en 2016. Même s'il perd, il fait quand même 12 millions de voix de plus. Donc, c'est un réservoir de voix dont aujourd'hui le parti ne peut pas se passer.
Alors, pour revenir à Joe Biden, Nicole Bacharan, c'est une obsession Donald Trump pour Joe Biden. Ce serait quand on regarde ses premiers pas, on voit qu'il a passé énormément de temps à détricoter ce qu'avait fait Donald Trump.
Oui, mais moi, mon sentiment, c'est que évidemment, il essaye d'avancer très vite, il travaille très vite. Tous les jours, il se passe quelque chose, et quelque chose, vous avez raison, qui défait ou qui va contre ce qu'a fait ou ce qu'aurait souhaité Donald Trump. Mais au fond, il me semble que Biden a davantage à cœur de repousser Trump dans le... à l'extérieur du débat politique américain et de se concentrer sur ce qu'il a à faire. Bon, on le sait, hein, c'est un homme qui est âgé, 78 ans, il ne fera probablement qu'un seul mandat. Donc il est assez libre et il veut aller vite et il cherche pas, il n'a pas besoin, comment dire, d'adulation autour de lui. Il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est génial et formidable. Il ne cherche pas autant l'attention. Donc finalement, Trump, c'est un élément parasitaire extérieur. Et pour les Américains en général, évidemment, les positions sont très tranchées. Il faut quand même bien dire que Trump, il prend moins de place. Il n'a plus de compte Twitter. On ne lui tend pas le micro tous les jours. Il ne prend plus de décision. Donc, je ne dirais pas du tout qu'il s'efface et qu'il ne sera pas présent en 2022, voire 2024. Mais à l'heure actuelle, dans le paysage quotidien, il est quand même sur le côté.
C'est quoi le style, Nicole Bacharan, le style Biden? Parce qu'on a l'impression que c'est le no style, c'est-à-dire c'est assez de la sobriété, de la compassion, qui en manquait cruellement dans les mois qui ont précédé avec la crise du Covid. Mais est-ce que vous, qui connaissez quand même très bien Joe Biden, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise pendant ces 3 premiers mois aux responsabilités?
Eh bien, écoutez, je trouve qu'il a plus d'énergie que l'on attendait. On a tellement entendu qu'il était au bout du rouleau, en quelque sorte, très très fatigué, légèrement gâteux, et les pires choses. Et puis dans une campagne où finalement, à cause de la pandémie, on l'a très peu vu, donc on ne pouvait pas se faire sa propre idée sur son état immédiat. Là, je trouve qu'il a vraiment de l'énergie, il est vraiment au travail, et il cherche à remplir sa tâche. Bon, c'est vrai que quand je parle à ma famille, à mes amis, à mes collègues aux États-Unis, je me rends compte que bon, évidemment, ce ne sont pas des pro-Trump forcenés, je vous l'avoue, mais néanmoins, pour tout le monde, il y a quand même une espèce de baisse de tension. Mmh. On est moins stressé quand on rebranche son ordinateur ou son téléphone portable. Et les grandes inquiétudes sur la santé et l'économie, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe.
Pierre, voilà. Il était attendu, Joe Biden, sur les questions diplomatiques. Est-ce que là, d'ores et déjà, il a imprimé sa marque? Est-ce qu'il a fait de l'anti-Trump? Qu'est-ce que vous reteniez des premiers pas de Biden sur la scène diplomatique?
Oui, alors il y a eu d'abord, on l'a vu dans le sujet, les mesures d'annulation de ce qu'avait fait Trump. Le retour dans les accords de Paris, le retour dans l'OMS, le déblocage de la nomination, c'est anecdotique, mais c'est important, de la nouvelle dirigeante de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Il y avait tout un tas de sujets comme ça. Qu'il a pu faire d'une manière extrêmement rapide. Après, il y a les sujets de fond. Et j'en retiendrai deux, d'une certaine manière. L'Iran, qui est le gros sujet complexe, le projet phare d'Obama défait par Trump et que veut refaire
l'accord sur le nucléaire.
L'accord sur le nucléaire. C'est très compliqué. mais ils essayent. La semaine dernière, il y avait 4 à 5 coups de téléphone par jour entre le Quai d'Orsay et le département d'État parce qu'il y avait une tentative d'organiser une réunion, une rencontre entre tous les pays concernés. Ça n'a pas marché, mais il y a encore une fenêtre d'opportunité jusqu'à la fin du mois de mars, en gros, pour y arriver. Après, il y a à la fois des fêtes iraniennes, puis les élections présidentielles en Iran qui font que ça sera plus compliqué. Mais donc, il y a un effort et là, l'administration est très engagée sur... Et c'était une promesse, là encore. Et le deuxième sujet, c'est la Chine. Et là, c'est intéressant parce qu'on est dans la continuité sur le fond. La confrontation avec la Chine continue. Elle n'a pas baissé, mais on est dans une méthode différente, qui est notamment celle de construire des coalitions. Et c'est là que Biden apporte une patte personnelle, qui est celle qu'il avait en politique intérieure, qui est d'essayer d'associer les gens, etc. Là, il le fait sur le plan international. Il essaye d'avoir les Européens, les Australiens, les Japonais, etc., dans une sorte d'alliance des démocrates contre le totalitarisme chinois, ouais. Pour faire court. Et donc, c'est intéressant de voir que sur le fond, il ne change pas la ligne, mais il change complètement sur la méthode.
Joe Biden est-il un protectionniste? C'est une question qui nous est posée ce soir, Philippe de Sertine.
Non, sûrement pas comme pouvait l'être Trump. Joe Biden a été pendant 8 ans le vice-président d'Obama. Hein. Vraiment, il était aux affaires avec Obama. Ce qu'avait lancé Obama pour contrer la Chine, et je crois que là, pour le coup, je suis absolument d'accord avec ce que vous dites, hein. On est toujours dans cette idée que le problème majeur des États-Unis, on a eu d'ailleurs le rapport du département d'État il y a quelques jours, c'est la Chine. C'est vraiment le problème majeur. Alors,
c'est-à-dire la croissance chinoise,
puissance croissante de la Chine. Il faut rappeler, hein, le Covid a renforcé la Chine par rapport aux États-Unis. On évoque la croissance américaine, mais en fait, les Chinois ont rattrapé les États-Unis.
Le sujet dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire la technologie. Parce que c'est pas simplement la croissance chinoise, c'est les États-Unis ne veulent pas être dépassés technologiquement par la Chine. C'est une vieille obsession américaine d'avoir le leadership technologique.
Et là, pour le coup, Obama avait constitué une sorte de glacis autour de la Chine avec les accords transpacifiques. L'idée, c'était ça. C'était de dire, on va faire des accords privilégiés sans droit de douane. Mais vous voyez, ils étaient complètement sur le Pacifique. On voit bien, hein, et quand même, qu'il faut vraiment le rappeler, hein, Obama et toute l'administration Obama, dont ouais. Biden avait fait ce qu'on appelle le pivot. C'est-à-dire, ils étaient partis de l'Atlantique et ils étaient sur le Pacifique en disant, l'avenir, le problème majeur des États-Unis, ça va être le Pacifique. Et là, le nouveau secrétaire d'État, c'est-à-dire le nouveau ministre des Affaires étrangères de Biden, a fait un discours dans lequel, très très clairement, on voit bien que c'est toujours le problème, je dirais, de l'Asie, c'est le problème de la prééminence en regardant l'Inde, en regardant l'Indonésie, en regardant le Japon, la Corée. Japon, Corée, en ce moment, sont très présents sur les semi-conducteurs que j'évoquais tout à l'heure, sur la haute technologie. Et là, pour le coup, on a eu le terme en disant on va, justement, leur faire une guerre technologique. Hein. Il est bien dans cet état. Il n'a pas utilisé le terme de guerre, hein, mais on est vraiment en disant, on a un État qui n'est pas démocratique et utilise la technologie. Ouais. Bah, nous, on va utiliser la technologie contre eux. Et donc là, on est vraiment toujours dans quelque chose qui, en réalité, est quand même toujours dans la droite ligne de ce que
dit... Il y a une continuité sur ce sujet-là, même si Pieraski disait tout à l'heure, c'est fait avec un peu plus de rondeur, peut-être, mais l'objectif reste le même.
Hein. Oui, on a différentes... Le secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères, a eu des mots très durs, mais il avait à plusieurs reprises approuvé l'action de Trump contre la Chine. Hein, donc,
Là, il y aura une forme de continuité entre les deux, on l'a bien compris. Alors, c'est l'une des toutes premières décisions de Joe Biden, mettre fin à la déclaration d'urgence nationale dont Trump se servait pour détourner des fonds fédéraux et financer son mur entre les États-Unis et le Mexique. Les travaux sont suspendus. Mais vous allez le voir, la situation sur place est toujours aussi tendue. Reportage en Arizona, Romain Besnénou et Stéphane Lopez.
Il se dresse là, au milieu du désert de Sonora, telle une cicatrice indélébile. D'un côté du mur, le Mexique et au loin ses montagnes. De l'autre, les États-Unis, où les travaux entrepris par l'ancien président Trump ont continué jusqu'au dernier jour de son mandat.
Ce que vous voyez là, c'est le mur de Trump. Il empêche les migrants de venir dans notre communauté. Les migrants et la drogue.
Haut de 9 mètres, le nouveau mur de Donald Trump a été construit tout le long du ranch de John Ladd. Un terrain gigantesque de 16 000 hectares à l'extrême sud de l'Arizona qu'il veut protéger à tout prix.
Les gens du tiers-monde qui débarquent ici détruisent l'Amérique. Quand Donald Trump a été élu, l'immigration s'est presque arrêtée, instantanément. Tout simplement grâce à sa façon de parler et ses menaces de sécuriser la frontière.
En 4 années de présidence, Donald Trump a fait construire ou rehausser 700 km de murs au sud du pays. Sur les 3000 km de frontière avec le Mexique, seuls 1200 sont aujourd'hui pourvus d'une barrière. On est loin des promesses de campagne de l'ancien président, mais pour le rancher John Ladd, c'est toujours mieux que ce que propose son successeur démocrate.
Joe Biden veut ouvrir les frontières. Il ne veut pas de mur, il ne veut pas de loi. Il veut faire venir tout le monde. Il va naturaliser tout le monde, c'est terrible.
Dès son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden a ordonné la fin de la construction du mur. Alors John Ladd regrette déjà Donald Trump.
Il a réussi à réunir l'argent, à aller au bout. J'en suis très heureux et je lui serai toujours reconnaissant d'avoir fait ce qu'il avait promis.
Dans ces coins reculés d'Arizona, seul le bétail est autorisé à franchir le mur sans laisser passer. Héritage d'une Amérique déchirée, le mur scinde même des villes entières en deux, comme Nogales, au sud de l'État. Ici, entre les pro et anti-murs, la réconciliation semble impossible, tant les drames humains sont nombreux.
Je ne peux plus la voir, ni l'embrasser, ni la toucher. Tout ça nous est interdit.
Miguel a vu sa femme expulsée des États-Unis il y a 8 ans. Pour eux, le mur est une calamité.
Le mur ici, c'est vraiment horrible pour nous.
Mal.
J'aimerais revenir en Amérique, mais je n'ai pas de papier. Maintenant que Trump n'est plus là, j'ai peut-être une chance. Cet homme était fou.
Aux côtés de Miguel ce jour-là, le shérif Attaway, fervent démocrate, il a vu il y a 2 ans la garde nationale installer des barbelés et des lames coupantes tout le long du mur, sur ordre de Donald Trump.
Les migrants font tout pour éviter les barbelés. Du coup, ils essayent de passer beaucoup plus loin, à l'est ou à l'ouest. Et ils traversent le désert et augmentent leurs chances de se perdre, de mourir de soif ou même de rencontrer des serpents ou des scorpions.
En 2020, 210 migrants ont été retrouvés morts dans le désert d'Arizona. Un record. Pourtant, même dans cette communauté à 90% hispanique, le mur divise.
Moi, j'ai voté pour Donald Trump. Je pense que toute frontière doit être protégée.
Je pense que les migrants doivent avoir plus de droits et être davantage protégés. Vous savez, nous sommes tous des migrants.
Pour la chef du Parti démocrate de Nogales, la présidence chaotique de Donald Trump va laisser des traces.
Je crois vraiment que le mur est le symbole de la division de notre pays. Donald Trump a créé un sentiment de terreur à l'encontre des migrants. Il l'a communiqué à la population. Les gens sont venus à dire « Il va nous sauver des méchants Mexicains ». Le pire, c'est qu'il a réussi dans cette entreprise. Combien d'Américains l'ont soutenu, même au sein de notre communauté ?
Le beau et grand mur de Donald Trump restera pour longtemps ce symbole d'une Amérique fracturée. Car pour l'instant, Joe Biden n'a pas prévu de le faire tomber.
Marie-Cécile Nabb, cette question, l'arrêt du financement du mur est-il acté et définitif ?
Alors, pour l'instant, Biden a signé un décret pour arrêter le financement exceptionnel par des fonds venant du Pentagone qui avait été débloqué exprès par Trump pour cela. Donc, pour l'instant, on en est juste à ce stade. Mais la politique migratoire de Biden ne va pas aller dans le sens du clivage, de l'obsession sécuritaire ou de l'obsession identitaire. Il a déjà annoncé qu'il voulait. Alors, on verra s'il peut le faire parce qu'il faudra qu'il ait les voix des républicains, une partie républicaine, une grande loi qui manque aux États-Unis sur l'immigration, notamment pour traiter la question des environ 11 millions de clandestins qui sont dans un entre-deux juridique, qui n'ont pas, qui sont vraiment les parents pauvres des politiques américaines depuis des années. Mais le problème, c'est que ce que fait Biden là, il faut qu'il l'accompagne d'un récit politique cohérent, qui marque les esprits et qui puisse convaincre de nombreux citoyens, parce que c'est aussi du pain béni pour Trump, qui récemment, il y a une dizaine de jours à Orlando, lors de son discours à la CPAC, a décrit Biden comme un président ultra-laxiste en matière migratoires, que des millions de gens allaient arriver aux États-Unis, porteurs de maladies, ce sont des criminels, etc., etc. Et donc ça nourrit son obsession et son récit identitaire qu'il avait fait gagner en 2016. Donc là-dessus, Biden joue gros.
Pierre Aski, il est intéressant ce reportage avec cette phrase de cette démocrate qui dit en fait ce mur il symbolise la division de l'Amérique. Il n'a pas encore réussi à réconcilier l'Amérique en trois mois. Joe Biden, ce sera l'objet de son mandat.
Oh, je pense que oui, c'est effectivement un travail de longue haleine. Mais ce qu'il essaye de réparer, c'est déjà les dégâts humains. Il y a toutes ces histoires qu'on a entendues pendant la période Trump et qu'on voit ressurgir aujourd'hui. Ces familles séparées, ces enfants séparés de leurs parents. Il y en a plusieurs centaines dont on ne sait pas où sont leurs parents. Donc tout ça, ce sont des déchirures qui ont été effectuées à l'époque de Trump et qu'essaye de réparer aujourd'hui. Après, il faut quand même se souvenir que l'administration Obama, par exemple, était très dure en termes migratoires. Il y a eu plus de reconduction à la frontière sous Obama qu'au cours des présidences précédentes. Donc, il ne faut pas s'attendre. Il y a un sujet de propagande qui est de dire qu'il va ouvrir les portes et tous les criminels vont arriver, etc. Mais il y a une tentative, en tout cas, d'humaniser cette politique migratoire et de ne pas être dans la brutalité qu'on a connue ces dernières années.
Nicole Bacharan, très vite, votre réaction à ce reportage qu'on vient de voir et à l'enjeu pour Joe Biden de ne pas apparaître, entre guillemets, naïf sur ce sujet-là, au risque d'être caricaturé par son futur, peut-être, adversaire Donald Trump.
Oui, et il n'est pas naïf. Et c'est vrai que Pierre a totalement raison quand il dit que c'est de la propagande de dire que Joe Biden va ouvrir les frontières ou qu'il a déjà ouvert les frontières. C'est absolument faux. Mais d'une part, il a immédiatement mis en place une task force pour essayer de réunir les enfants séparés de leurs parents. Et là, je pense qu'on ne mettra jamais assez l'accent sur ce qui s'est passé à la frontière avec le Mexique. Il y a littéralement des gardes frontières américains qui ont pris des enfants dans les bras de leurs parents et qui sont allés les enfermer plus loin, ailleurs et dans d'autres parties du pays. Et il y en a beaucoup qu'on n'a pas encore réussi à réunir avec leurs parents. Donc là, vraiment, il y a eu des choses qui sont totalement inacceptables dans une démocratie. Maintenant, Joe Biden, il a prévu une grande réforme de l'immigration, plus ou moins la même que celle que voulait faire George W. Bush, qui a été refusé par son propre parti. Barack Obama n'a même pas essayé. Donc on voit que le sujet est politiquement ultra sensible. Mais en effet, régler le sort de ces millions et millions de personnes qui vivent, travaillent et payent leurs impôts aux États-Unis, c'est inévitable. Tout le monde sait qu'ils ne vont pas repartir, quelle que soit la dureté de la politique.
Et nous revenons maintenant à vos questions. N'est-ce pas d'abord la Chine qui va profiter de cette énorme manne financière, Philippe de Sertine?
Pas de la manne financière. Je répète, je crois vraiment la Chine et l'Asie. Hein. C'est l'Asie du point de vue large et la Chine qui sont aujourd'hui les moteurs de la relance mondiale. Là, quand les États-Unis font ce grand plan de relance, en quelque sorte, ils reviennent dans le jeu en devenant l'autre moteur possible. Hein, depuis plusieurs mois, on voyait que la croissance était en Asie. Là, d'un seul coup, effectivement, on l'a dit, l'énorme plan de relance fait qu'on a aussi une relance américaine. Mais cette relance américaine, c'est une relance de consommation, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément une relance qui, à long terme, par exemple, va impulser une croissance forte en Europe. On a beaucoup plus intérêt à s'attacher aux exportations vers l'Asie que de profiter quelques temps, mais on sait que ça ne durera pas, on va dire, de la relance américaine. Ce qui est vrai, oui, c'est que la Chine est plus que jamais au centre du jeu avec les États-Unis. Pas sous, mais avec.
Donald Trump aurait-il été réélu sans la pandémie et sans sa gestion calamiteuse de la crise sanitaire? Bon, personne ne le saura jamais, mais...
C'est pas impossible, c'est évident. Et d'ailleurs, je pense que, vous savez, dans la petite vidéo de départ à la Maison-Blanche, il a souhaité bonne chance à Joe Biden et il a dit... la chance, ça compte en politique. Et je pense qu'il revoyait le film de son année, où effectivement, en janvier, il pouvait être satisfait. Il venait de signer un accord avec les Chinois, l'accord intérimaire, dans lequel il y avait des dizaines de milliards d'achats de produits américains supplémentaires, donc plutôt positif pour lui. Il avait une économie qui était en plein boom. Et il avait un Joe Biden, le Sleepy Joe, on en a parlé tout à l'heure, mais qu'il pouvait réduire par sa machine de guerre qui est quand même efficace. Et puis, paf, tout s'est écroulé. Donc, on peut... Ah, c'est impossible de refaire le match, mais...
ça n'a pas aidé.
Mais en tout cas, le scénario là-dessus. Était possible.
À quand la hausse des taux d'intérêt ?
Donc là, de toute façon, c'est quelque chose qui est quand même très, très sensible pour toute la finance mondiale. Donc les banques centrales vont donner des signes. Je pense qu'effectivement, Mme Lagarde en donnera dans quelques heures, on va dire.
Comment elle fait, la banque centrale, quand elle donne des signes ? Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'elle annonce bien qu'elle reste avec des taux faibles, qu'elle va continuer à racheter de la dette pour justement empêcher de la tension sur les marchés de la dette. Donc là, les banques centrales vont empêcher ça. Après, le risque, effectivement, ce qu'on disait, c'est que les banques centrales soient dépassées par la croissance et par l'inflation. Et auquel cas, évidemment, là, elles n'ont plus le choix. Elles doivent suivre, elles doivent accompagner le mouvement de surchauffe qui a un peu commencé aux États-Unis.
C'est le scénario catastrophe pour des pays endettés.
Oui, alors non, soyons pas trop catastrophiques. Enfin, c'est un scénario, oui, non, c'est un scénario quand même très préoccupant.
Voilà,
très préoccupant pour un pays lourdement endetté.
Joe Biden va-t-il réparer et rétablir l'Obamacare, Nicole Bacharan?
En tout cas, il y travaille. Alors, Obamacare n'a jamais disparu. C'est cette loi pour assurer environ 30 millions d'Américains supplémentaires qui a été votée en 2011 et pour laquelle Barack Obama a beaucoup bataillé. Et depuis 2011, les Républicains, y compris Donald Trump, ont promis de l'abroger et de la remplacer, cette loi. Sauf qu'ils n'ont peur ni l'un ni l'autre. Et là, dans le plan de relance, il y a pas mal d'éléments qui concernent la santé pour justement aider donc des subsides, des Américains à acheter leur assurance sur le marché privé, ça fait partie d'Obamacare, ou être inclus dans un programme public qui s'appelle Medicaid pour les familles plus modestes, qui fait également partie d'Obamacare. Donc il y a l'ambition d'élargir ce programme et très rapidement, en fait, autant que possible, à cause de la pandémie, évidemment.
Allez, il y a pas mal de questions ce soir. Et si le pari de Biden échoue, que se passera-t-il, Marie-Cécile Nave?
Le premier grand test, je le disais tout à l'heure, mais je le répète parce que c'est valable aussi pour cette question, ce sera les élections de mi-mandat de 2022. Pour l'instant, le Parti démocrate a une très très courte majorité au Sénat, 50-50, plus la voix déterminante de Kamala Harris en cas d'égalité parfaite. Et puis la majorité s'est réduite à la Chambre des représentants avec les dernières élections. Donc il a une fenêtre de tir assez courte pour faire passer ses grandes réformes, notamment au niveau législatif, en peu moins de 2 ans.
D'accord. Donc en enjeu politique des mi-termes.
Oui, l'enjeu politique des mi-termes, ça va être vraiment le grand test. Et très souvent, le président en exercice perd au moins une des deux chambres aux élections de mi-mandat.
Avant ça, il y aura les résultats économiques.
Oui.
C'est quoi le bon test, le bon curseur? Ça va être le marché de l'emploi, ça va être les chiffres de la croissance, pour savoir si ça a réussi.
Oui, le marché de l'emploi, logiquement, il doit repartir. D'accord. Il l'a fait déjà, d'ailleurs, au mois de septembre, quand on a eu vraiment une recréation de postes. Bon, après, évidemment, le virus est revenu. Non, la vraie question, ça va être l'écart avec l'Asie, l'écart avec la Chine. C'est ça qui va être vraiment...
On va mesurer les taux de croissance.
Oui, c'est ça qui va être vraiment l'élément crucial. D'accord. Et ce qui se passe sur l'Asie, sur Taïwan, sur la Corée, sur le Japon, sur l'ASEAN qui a été cité justement il y a quelques jours encore.
Ils sont à combien les Chinois ?
En termes de croissance, vous voulez dire, ils sont sur 7%, enfin, ils ont une prévision de 7% l'année prochaine et ils n'ont pas été en récession l'année dernière, ils étaient à plus de 2.
On peut leur faire confiance quand ils nous donnent les taux de croissance ?
Non, pas complètement, mais enfin, on voit quand même que ça tourne.
Allez, pourquoi Biden ne taxe-t-il pas les riches, les très riches qui sont de plus en plus riches, comme l'avait fait Roosevelt dans les années 30 ?
Alors, il y a beaucoup de voix qui poussent dans ce sens-là et je pense qu'il y aura des mesures qui seront prises. Pas dans les proportions que souhaite Bernie Sanders ou l'aile gauche du parti, mais les grandes fortunes seront mises à contribution d'une manière ou d'une autre. Mais après, on fait de la politique aussi et ces voix-là comptent et sont les... On parle des grands donneurs des grands donateurs du parti aussi.
Qui se soucie du réchauffement climatique? Joe Biden, non? Nicole Bacharan, il s'en soucie?
Ah oui, absolument, et de deux manières qu'on a un petit peu évoquées aujourd'hui. D'abord, donc, il a rejoint l'accord de Paris, où il y a des objectifs très précis à tenir, mais par ailleurs, dans le programme d'investissement dans les infrastructures, dont on pense que ça devrait intervenir d'ici un an à peu près, il y a une grosse partie, très grosse partie, qui est consacrée justement à tout ce qui est lutte contre le réchauffement climatique, investissement dans les nouvelles technologies, les énergies renouvelables, ouais. L'isolation des bâtiments publics, etc., etc. Donc la question du climat et des infrastructures, elle est très liée. Et Joe Biden, jusqu'à présent, prévoit de s'engager très fortement là-dessus.
Et il a pris une décision, l'annulation du permis de construire de l'oléoduc Keystone XL.
Exactement, c'était ça.
Ça, c'était un symbole. Allez, en définitive, n'est-ce pas l'inflation qui épongera la crise du Covid ? Jannick, en Indre-et-Loire.
Oui, alors donc, il ne faut pas non plus là espérer trop les méthodes miracles, parce que l'inflation est aussi ce qui peut faire peser le poids de la dette pour des pays dans lesquels la croissance serait insuffisante.
Eh bien, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h50. On se retrouve demain à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter quand vous voulez. C'est gratuit. C'est dans l'air en podcast. C'est sur toutes les plateformes. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.